On en parlait dans le journal, jour de vote ce dimanche en Biélorussie où le président Loukachenko vise un septième mandat indéboulonnable et impitoyable aussi envers son opposition, scrutin d'ailleurs qualifié de farce par ses opposants. Dans ce pays fermé, frontalier de l'Union européenne, de la Russie et de l'Ukraine. Bonjour Olga Gilbelova.
Bonjour madame.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence au département d'études slaves à l'université Bordeaux-Montaigne. D'abord, pour revenir juste sur les candidats, Alexandre Loukachenko n'est pas le seul. Hein. Les autres, ceux qui ont été autorisés à se présenter aujourd'hui, ce sont simplement des faire-valoir.
Tout à fait. Il s'agit des candidats qui, pour une partie, ont déjà pris part dans les élections précédentes et surtout, ces quatre candidats ont annoncé qu'ils soutenaient fermement Alexandre Loukachenko. Donc, il n'y a pratiquement aucune différence et il s'agit plutôt de figurants que de vrais candidats dans cette mise en scène électorale.
On entendait tout à l'heure la chef de file en exil de l'opposition, Svetlana Tikhanovskaya, qui parlait d'une farce. Alexandre Loukachenko, lui, a exclu tout à l'heure après son vote tout dialogue avec l'opposition. Ses opposants, ils sont pour la plupart aujourd'hui en exil. Quelle est la marge de manœuvre des contestataires? L'opposition a appelé à ne pas manifester aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il lui reste finalement comme levier?
Effectivement, il n'y a pratiquement aucun levier d'agir à l'intérieur du pays pour cette opposition en exil, car le régime répressif est extrêmement fort. En revanche, il reste le défi à relever pour cette opposition en exil, c'est d'essayer d'exister malgré ce contexte qui est peu propice au changement actuellement. Mais c'est la première fois d'ailleurs qu'il y a autant de Biélorusses à l'extérieur du pays. Il y a une véritable diaspora, il y a une structuration politique autour notamment de Svetlana Tikhanovskaya. Donc ce qui reste aujourd'hui, c'est d'espérer qu'à moyen ou à long terme, il y aura des changements et c'est à ce moment qu'ils pourront réellement avoir une marge d'action.
L'Union européenne, de son côté, a dénoncé une mascarade. Les Occidentaux ont déjà imposé de lourdes sanctions contre Minsk. Quel est l'effet finalement de ces sanctions ?
L'effet est extrêmement réduit parce que c'est surtout le soutien russe qui a permis à contrebalancer les effets potentiels de ces sanctions. En revanche, le prix à payer, c'est une dépendance de plus en plus importante du pays à l'égard de la Russie.
Mais justement, Minsk, effectivement, est un allié solide de la Russie. D'ailleurs, Loukachenko avait permis à l'armée russe de se déployer en Biélorussie pour envahir l'Ukraine en 2022. La Russie a déployé également des armes nucléaires tactiques en 2023. Il y a eu une sorte de rapprochement accéléré avec Moscou ces dernières années, c'est ça ?
De toute façon, la dépendance, notamment dans le domaine économique, a été toujours très importante depuis plus de 30 ans. Mais en revanche, ce qu'on a vu ces dernières années, c'est la perte totale d'indépendance géostratégique, au sens où le territoire, comme vous l'avez souligné, a été déjà employé par les Russes pour attaquer l'Ukraine par le nord et qu'aujourd'hui les armes russes sont stationnées sur les territoires biélorusses sans aucune contrainte et sont évidemment plutôt bien accueillies par le régime d'Alexandre Loukachenko.
Mais est-ce qu'il y aurait un risque d'absorption par Moscou de la Biélorussie ?
Ce n'est pas forcément dans l'intérêt de Moscou parce qu'il est beaucoup plus avantageux probablement de maintenir une indépendance symbolique et ne pas chercher à l'intégrer sous forme de sujet de fédération russe.
Mais s'il y avait des négociations de paix qui aboutissaient cette année sur le conflit en Ukraine, est-ce que la stratégie de Loukachenko pourrait évoluer ? Est-ce qu'il pourrait chercher, selon vous, à entamer un dégel des relations avec les Occidentaux ?
Par le passé, Loukachenko a déjà connu les périodes de sanctions importantes et parfois des périodes d'une forme d'ouverture vers l'Union européenne. Et effectivement, il pourrait tenter ce rapprochement parce que ça lui permet de desserrer un petit peu cette dépendance vis-à-vis de la Russie et de diversifier ses options. Donc, il n'est pas exclu qu'il essaye de le faire. D'ailleurs, il a déjà libéré quelques centaines de prisonniers politiques cette année. Ça a été interprété comme une forme de signal qu'il envoie. Ouais, tout à fait, à l'Union européenne.
Et là, après son vote tout à l'heure, le président Loukachenko a parlé de son pays comme d'une démocratie brutale. Comment est-ce que vous interprétez ces propos ?
Bon, c'est un jeu de mots. Il s'agit d'un régime autoritaire, brutal, mais en aucun cas on ne peut pas parler de la démocratie.
Donc aucune dialogue possible avec l'opposition. L'opposition n'a plus qu'à attendre, c'est ça ce que vous pensez, ce que vous dites ?
Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de relais au sein de la société, mais ça ne veut pas dire que la société biélorusse dans sa totalité accepte donc le régime de Loukachenko. C'est juste, il est aujourd'hui impossible de manifester son opposition à l'intérieur du pays.
Et on l'entendait dans les reportages de notre envoyé spécial, c'est très difficile de s'exprimer quand elle tendait au micro, son micro à des gens dans la rue. Beaucoup ne souhaitaient pas répondre.
Bien sûr, il y a une peur et il y a un risque très élevé. Et d'ailleurs, en amont des élections, il y avait toute une campagne d'intimidation par laquelle on a fait bien comprendre aux citoyens biélorusses qu'ils risquaient gros s'ils osaient s'exprimer ouvertement contre le régime en place.
Un présidentiel donc sans suspense en Biélorussie. Merci à vous, Olga Gilbelova, maîtresse de conférence au département d'études slaves à l'université Bordeaux-Montaigne. Très bonne journée à vous. 13h20 à Chemnitz, en Allemagne.